France Inter.
Écrivaine, poète, éditrice et enseignante née à Bastia, Laure Limongi quitte la Corse à 18 ans pour une classe préparatoire à Aix-en-Provence où elle s'encanaille jouissivement avec la poésie. Depuis, l'artiste transdisciplinaire navigue entre musique, art visuel et sciences et façonne une œuvre composée de romans, fictions documentaires, essais qu'elle met en scène sous forme de conférences performées. Parmi ses derniers ouvrages publiés figure le diptyque « Ton cœur à la forme du Nil » et « On ne peut pas tenir la mer entre ses mains » paru chez Grasset, ainsi que le recueil « J'ai conjugué ce verbe pour marcher sur ton cœur » aux éditions Latente. Laure Limongi enseigne l'écriture et la création littéraire à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy, après avoir été éditrice pendant une quinzaine d'années et avoir co-dirigé le Master de création littéraire du Havre de 2014 à 2020. Elle signe aussi de nombreuses collaborations artistiques. Comme une mystérieuse créature marine, elle se renouvelle régulièrement et se diffracte, comme elle le fait aussi avec ses installations et ses narrations ouvertes. Des centaines de fenêtres et de possibles cohabitent, comme dans un désir d'abolition totale des frontières. Son premier livre s'appelait Eros Peccadi, publié chez Al Dante comme Dante Alighieri, je le souligne pour la musique. Et le dernier paru est le conte futuriste et poétique L'invention de la mer au Tripode. Nous sommes en 2123, les membres de l'espèce humaine se sont hybridés avec des espèces aquatiques, suite aux catastrophes dont ils furent responsables évidemment, et le fait historique répondant au nom de grand emballement avec majuscule. Ensuite eut lieu l'avènement des chimères, qui malgré le tsunami meurtrier de 2011 ont l'air de vivre en harmonie. La chimère Violetta Benedetti Ogundipe nous envoie un livre du futur et nous présente deux auteurs chimères de la bibliothèque et sonothèque qu'elle rassemble, Gina de Galen, chimère cachalot lyrique, et Ménipe Zalé, chimère crabe un peu canaille. Le texte foisonne d'inventivité et de réjouissance et vous comprendrez tout grâce au lexique cétacé placé en fin d'ouvrage ainsi qu'à celui qui permet d'avoir accès aux poèmes olfactifs. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Laure Limongi.
Bonsoir Eva Bester.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
Ah, l'enthousiasme, j'aime beaucoup l'enthousiasme. Alors dernièrement, j'ai pu à nouveau être un petit peu à la campagne, au bord de la mer, parce que j'ai eu un premier semestre très très urbain. Et ce sont les oies bernaches qui font des petits bruits trop mignons, parce qu'elles on dirait qu'elles bavardent entre elles comme ça, elles sont en train d'hiberner gentiment dans le sud-ouest. Elles viennent de Sibérie, les oies bernaches de Cravant. Et donc elles font des espèces de cacardements, de caquettements très drôles. Donc voilà, j'ai pu les observer pendant quelques temps.
Ouais, l'oie de Cravant, c'est un très bon éditeur canadien d'ailleurs.
Aussi.
Alors, je suis quand même avec une consoeur, puisque vous distillez des remèdes à la mélancolie.
C'est vrai.
Alors, grâce au service des panacées, est-ce que vous pouvez raconter la genèse de ce projet?
Alors la genèse, on ne sait jamais trop quand ce genre de projet cristallise finalement en soi, mais je pense que c'est typiquement un projet qui est à la croisée des chemins que je mets en place depuis longtemps, c'est-à-dire à la fois le fait d'écrire, de lire énormément et de considérer la lecture comme une panacée, comme une sorte de refuge très positif. Évidemment la transmission à travers mon travail d'éditrice et maintenant de professeur de création littéraire, donc je pense que voilà, tout ça a cristallisé dans cette fonction, donc le service des panacées. J'incarne une sorte de bibliothérapeute, donc avec une blouse, avec un caducée, un livre, etc. Et je propose à des gens de s'inscrire en consultation performance, c'est évidemment quelque chose d'artistique, et en énonçant un trouble. Donc le terme est volontairement trouble. Et moi je réponds à ce trouble effectivement avec une prescription de livres, avec leur postologie, qu'on voit ensemble avec la personne, histoire de vraiment pouvoir effectuer ce traitement bibliothérapeutique.
C'est né à la Villa Médicis, ce projet?
Tout à fait, je l'ai développé l'année dernière à la Villa Médicis, donc pendant un an, c'était vraiment magnifique de pouvoir le faire là-bas, et là ça continue. J'étais à Marseille, au FRAC Sud, ça sera au Centre Polonie-Bruxelles, j'étais au Centre Pompidou, chez Cetel, enfin voilà, il y a plein de...
Et je crois qu'il y aura aussi un roman et une thèse.
Oui, en fait, quand j'ai commencé ce projet l'année dernière, je me suis rendu compte à quel point je souhaitais qu'il m'accompagne longtemps et il y avait plein de choses possibles. Donc le côté tout le côté recherche, je me suis dit que ça valait vraiment le coup de l'approfondir davantage de manière fort sérieuse. Donc je suis inscrite effectivement en doctorat de recherche-création à Cergy, sous la direction d'Anne-Marie Petitjean et de Éric Pujade-Lorraine, donc un scientifique et une professeure de littérature à Cergy. Et effectivement, voilà, ça continue dans plein de choses. Et il y a aussi des projets d'écriture associés, une sorte de dictionnaire médical de la littérature, mais je pense que ça va me prendre des années, et tant mieux pour le constituer. Et puis d'autres récits, puisqu'évidemment, je m'intéresse à l'histoire de la médecine, qui est totalement passionnante, donc qui est vraiment, qui regorge d'histoires assez abracadabrantes. Et voilà, donc j'essaie d'en faire aussi quelque chose.
Vous aviez parlé d'algie vasculaire de la face dans Anomalie des zones profondes du cerveau, qui est une forme terrible de migraine dont vous souffriez. Est-ce que vous allez mieux ?
Bah en fait, on n'en guérit pas. Donc là, j'ai la chance de pouvoir... Enfin, ça n'arrive que tous les 1 ou 2 ans. Voilà, l'échelle de crise d'un mois, un mois et demi quand même. Donc bah, je suis plutôt bien lotie, hein, puisqu'il y a des gens qui sont chroniques de cette maladie. Mais effectivement, je pense que ce livre et le fait d'aborder ce sujet neurologique est sans doute une sorte d'ancêtre du service des panacées. Donc c'est la première fois que je me suis intéressée à ça et au fait de mélanger les codes littéraires et les codes médicaux.
Est-ce que vous avez été votre propre patiente au service des panacées ? Et si oui, que vous êtes-vous prescrit ?
Alors moi, je me laisse un peu prescrire des choses par le faux hasard qui fait que... Moi, j'adore aller en librairie, par exemple, sans projet réel, me balader et attendre qu'il y ait une sorte de couverture qui me saute au visage, comme ça, ou d'envie soudaine d'acheter un livre. En général, ça correspond à un trouble qui n'était pas forcément révélé, exprimé, mais que le livre auquel le livre va répondre, en tout cas.
Alors là, je suis obligée de vous demander quel était votre dernier achat.
Alors, le dernier
et le dernier trouble.
Alors, je ne sais pas si ça a répondu à un trouble. Non, mais j'ai acheté le livre de Rachel Carlson, Sous le vent de la mer, que je n'avais pas encore lu. Alors, j'avais lu l'autre sur la mer.
La mer encore, votre obsession.
Bah oui. Donc, évidemment, là, je me suis dit qu'il fallait que je vérifie toutes les connexions que je peux avoir avec cette autrice qui est biologiste marine, donc qui est très, très précise aussi dans ses récits.
La 20e heure. Eva Bester. Sur France Inter.
Laure Limongi, en 2004, vous avez publié « Je ne sais rien d'un homme quand je sais qu'il s'appelle Jacques », qui mettait en scène un homme semblant être un assassin schizophrène. Alors j'ai quelques questions obliques. Quel prénom ferait que vous sauriez tout de quelqu'un ?
Ah, bonne question. Jean, je ne sais pas.
C'est vrai, Jean, vous pensez qu'on sait tout des gens ?
Ben, c'est un nom qui est tellement à la fois commun et dans plein d'histoires que pourquoi pas.
Quelle place a la violence en vous et comment s'exprime-t-elle ?
Oula, ça c'est une vaste question parce que familialement parlant, du côté paternel, c'est quelque chose de très très puissant. Donc j'ai connu des gens très violents. Et donc moi je pense à la fois qu'elle est en moi et qu'en même temps elle est... Enfin, c'est pas qu'elle est réprimée, c'est que je la refuse. Donc tout simplement je la transforme en énergie autre, en je sais pas, je peux faire beaucoup de madeleines en même temps ou des confitures. Voilà, je fais beaucoup de confitures.
Alors, je parle de ce livre où l'identité de ce Jacques ou de ce Jack n'est jamais assurée. Pour savoir si vous vous surprenez vous-même en écrivant et si vous savez qui vous êtes.
Alors, savoir qui je suis, certains jours peut-être, d'autres certainement pas. Et en l'occurrence, pour l'invention de la mer, je me suis beaucoup surprise, oui, parce que j'ai créé, bon, j'ai fait des recherches évidemment sur ces animaux marins, sur les cétacés, sur les crustacés, sur les poulpes, etc. J'ai aussi passé tout un temps à faire une généalogie de cétacés assez précise.
Parce que... Presque biblique, voire mythologique.
Quoi. Exactement. Et aussi pour ne pas m'emmêler les pinceaux dans les dates, parce que c'est toujours compliqué quand on a des personnages avec les générations. Enfin voilà, donc clairement quelque chose de très pointilleux. Et en fait, une fois que j'ai fini ça, c'est complètement parti. Les personnages se sont mis à évoluer de jour en jour et j'observais un peu les choses en train de se faire.
Alors, avant l'invention de la mer au Tripode, vous aviez fait paraître « On ne peut pas tenir la mer entre ses mains », un roman familial se passant en Corse au sein d'une famille écartelée par un secret. Et votre double romanesque dedans, c'était Uma Benedetti, qu'on trouve aussi dans Ton cœur à la forme du Nil, et qui réapparaît en notes de bas de page. Il y a plein de notes de bas de page qui m'ont fait penser à celles de David Foster Wallace, tellement ça foisonne et c'est long et vous vous amusez avec. Et donc elle apparaît, cette Uma Benedetti, en ancêtre d'une chimère dans l'invention de la mer. Est-ce que vous construisez un système, puisque tout semble se répondre chez vous?
C'est jamais trop conscient quand je le fais, et je me rends compte à un moment que oui, tiens, on peut faire un lien là. Après, je travaille beaucoup, vous l'avez indiqué, avec Jacques. Enfin, je me suis rendu compte après coup qu'il y avait beaucoup de doubles dans ce que je faisais. Donc, je ne sais rien d'un homme quand je sais qu'il s'appelle Jacques, il y a deux Jacques. Après, il y a eu un diptyque musical, Gould et Elvis Presley. Enfin, voilà. Et c'est un mode de fonctionnement avec les deux livres aussi. On ne peut pas tenir la mer entre ses mains et ton cœur à la forme du Nil. Voilà. Donc, après, je constate des choses et effectivement, je les mets en relation, mais c'est un petit peu. Ça se fait un peu malgré moi, là encore.
Cette saga familiale, vous dites l'avoir écrite pour panser les plaies de quatre générations écorchées. Je vous cite, mettre fin à la toxicité d'un secret qui rampe de la cave au grenier. Est-ce que ça a fonctionné ?
Je pense que oui. Après, comment dire, c'est le genre de choses qui à la fois fonctionne et ne fonctionne pas. C'est-à-dire que sur un certain plan, ça fonctionne. Et de l'autre, on ne peut évidemment jamais effacer l'histoire et des choses qu'on a toute sa vie. C'est la manière dont on est en relation avec elle qui change, tout simplement.
Alors la Corse, c'est votre terre, c'est une obsession et elle apparaît pratiquement partout chez vous. Et vous la comparez sur vos instantanés, je dirais ce que c'est plus tard que les instantanés, à un cancer dans votre tête sur une page de votre journal, mais aussi plus tard, ça devient la consolation.
Oui, alors ça c'était issu d'entretiens que j'ai fait pour « Ton cœur à la forme du Nil ». Et cette phrase, c'est une phrase d'une amie corse, c'est voilà qui m'a cité ça et qui m'a donc je l'ai recité dans le livre parce que ça m'avait paru très fort comme terme. Et la consolation, pareil, c'est une personne de la diaspora, ce sont deux femmes hein, qui avaient dit que pour elles, c'était vraiment voilà la Corse, c'était ça, c'est la consolation absolue, cette terre qui console. Donc c'est pour ça aussi que j'étais passée par le biais d'entretiens quand j'avais fait ce livre, donc Ton cœur à la forme du Nil, c'est vraiment cette question, qu'est-ce que c'est qu'être corse? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Pourquoi est-ce que c'est si ambivalent? Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais oui, clairement, je ne suis pas la seule à me poser ces questions, donc faisons des entretiens. Et donc était apparue toute cette polyphonie par rapport à cette terre si étrange, quoi.
Dans une interview d'il y a quelques années, Laure Limongi, vous disiez que vous vous sentiez corse et française. C'est toujours le cas?
Ben oui, parce qu'il y a des éléments de la. Ben, en fait, vraiment, c'est vraiment une double culture, je pense. Français, c'est évident, j'écris en français. En fait, le corse ne m'a pas été suffisamment transmis pour que je puisse écrire en corse. Enfin, j'écris en corse comme dans une langue étrangère, donc voilà, clairement. Et en même temps, il y a des éléments de culture méditerranéen. Il y a aussi un ancrage méditerranéen, et pas que corse, qui est très fort, voilà, qui est autre chose. Donc clairement, c'est à la croisée de ces deux chemins-là.
Vous avez grandi, en tout cas, dans une atmosphère magique. C'est le mot que vous employez, avec des histoires de revenants.
Ah oui, plein.
Tout le monde en a.
Ah oui, non, vraiment, en Corse, moi quand j'étais petite, la maison du village qui est en Castanitch, il y avait vraiment, l'électricité était très capricieuse. quand je suis née, on aurait vraiment dit une maison du 19e siècle, il n'y avait pas l'eau courante, on allait chercher l'eau. Ouais, c'était vraiment très, très rustique, on va dire. Et comme l'électricité sautait souvent, voilà, il y avait des récits à la lampe à huile, enfin c'était absolument terrifiant. Et c'était un peu une tradition de se raconter ces vieilles histoires de fantômes comme ça dans les forêts de Castanitch.
Quel est votre rapport à la Corse aujourd'hui? Parce que je sais que vous l'avez quittée dans un climat très violent. Je sais que sur le continent, vous rencontriez de l'hostilité. Quand vous disiez que vous étiez corse, c'était à l'époque du meurtre du préfet Erignac. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui?
Non, ça a changé. Alors après, j'ai fait ma trajectoire personnelle aussi à travers ces deux livres. Donc là, je reviens régulièrement en Corse. C'est souvent pour faire des choses avec des amis artistes, voilà, souvent invités. Et puis, j'ai plus de famille là-bas parce que je suis orpheline. Mais j'ai quand même, j'ai gardé des amis d'enfance, notamment une amie d'enfance, mon amie d'enfance de toujours. C'était un petit peu toujours ma famille adoptive qui a su garder ce lien de tendresse avec moi, sur cette île et chez qui je retourne à chaque fois. Que je vais voir. Donc, j'ai réussi à reconstruire des liens affectifs assez sains, si je puis dire la chose ainsi, avec la Corse. Et j'y vais souvent pour des lectures, des performances, etc.
Vous dites ne pas être adepte de l'autofiction, avoir mis du temps à vous positionner, et que seuls les deux premiers chapitres de On ne peut pas tenir la mer entre ses mains sont à la première personne du singulier. En fait, l'hybridité, elle est partout dans votre œuvre.
Oui. Après,
vous ne croyez pas à l'hermétisme des genres?
Non, du tout. Du tout, pour moi, voilà, je suis très fluide dans le genre littéraire.
Dans tous les genres même, parce que dans l'invention de la mer, c'est formidable, la liberté des chimères, elle devrait nous apprendre des choses.
Oui, c'était un peu l'idée, et puis moi, c'est vrai que je ne crois pas du tout à ça, aux frontières, aux choses hyper closes, et je sais que j'ai besoin d'inventer, il me semble que chaque livre répond à l'appel, soit d'un sujet, soit d'un motif, quelque chose comme ça, et la forme s'invente pour répondre à cet appel et à ce motif. Donc je me fonds pas dans un genre, mais j'essaye d'inventer des outils à chaque fois, comme on le fait beaucoup en art plastique d'ailleurs. Et la question de l'autofiction, c'est juste qu'en fait, je ne suis pas à l'aise avec le fait d'être au centre des choses. J'aime pas du tout ça. Là, en l'occurrence, l'histoire qui est assez proche de la mienne était trop belle pour ne pas être racontée, mais je ne voulais pas que ça soit vraiment la mienne. C'est vraiment un besoin.
Là, c'est insoupçonnable.
Bah oui, c'est... puis en même temps, je trouve que de toute façon, on reconstruit tellement de choses qu'on ne sait plus qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qu'on a pris quelque part, qu'est-ce qui a été rêvé. Donc c'est plutôt ça qui est intéressant.
Mais vous aimez beaucoup le collectif puisque vous faites beaucoup de collaborations. Et je pense par exemple avec la graphiste Fanette Mélier qui fait un travail magnifique. Vous avez fait des livres et elle a fait elle-même des livres d'artistes pour enfants aux éditions du Livre qui sont magnifiques. Vous aimez le collectif ?
Oui, oui, oui. Et j'ai cette grande chance de travailler avec Fanette. On avait fait un livre, Le Travail de Rivière, en 2009. Là, ce qui était intéressant avec Le Travail de Rivière aussi, et j'ai beaucoup apprécié ça, c'est que c'était elle qui passait commande du texte, puisque c'était une résidence de graphisme. Et tout le travail, effectivement, d'échange et d'aller-retour entre l'élaboration du texte, bon, évidemment, qui m'appartenait, mais aussi le dialogue pour qu'elle crée la forme. Donc là encore, c'était aussi une histoire de créer un objet totalement adapté à ce récit qui était raconté. Donc avec Fanette, on aime effectivement beaucoup faire des projets ensemble.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado.
Gracias a la vida de Violeta Parra. Et là, vous me voyez venir, Laure Limongi, puisque vous publiez le très inventif roman hybride et poétique L'invention de la mer. Et le texte commence par un écrit de Violeta Benedetti Ogundipe, qui écrit à l'humanité de la Corse du futur. Et le nom de cette chimère rend hommage à deux artistes.
Et oui, notamment Violeta Parra, donc qui est une grande artiste chilienne que j'aime beaucoup. Alors, elle a un parallèle avec mon personnage dans la mesure où elle est allée essayer de sauver quelque chose de la culture de son pays en enregistrant les chants dans la cordillère des Andes et en les retranscrivant. Donc c'est grâce à elle qu'on a gardé tout un patrimoine. C'est aussi une artiste qui a été... c'est la première artiste, je crois, qui a été exposée au Louvre pour ses tapisseries. Donc voilà, quelqu'un de très aussi grande artiste de chansons. Et c'est Molara Ogundipe, je vais vérifier son prénom, qui est poète aussi et poète féministe. Donc les deux aussi ont un engagement politique très fort.
Alors, cette Violeta nous envoie son récit du futur et écrit « Si mes calculs sont bons, je vous ai envoyé ce livre après plusieurs rapports du GIEC particulièrement accablants, dont celui de 2022. » Mais elle a de la tendresse pour nous, heureusement, parce que apparemment, une apocalypse humaine est survenue.
Oui, il y a eu un grand emballement qu'on voit un petit peu venir, à vrai dire. Donc, qui finit par arriver.
Et 2022, c'est aussi l'année à laquelle est supposé se passer ce film évoqué dans votre livre.
Ramassage première catégorie. Ramassage première catégorie. Rue interdite ou non autorisée d'ici une heure. Rue interdite ou non autorisée d'ici une heure.
Cet entretien avec le gouverneur Henri Santini vous est offert par Soleil Rouge et Soleil Jaune, végétaux à grande puissance énergétique. Et le tout nouveau et délicieux Soleil Vert, l'aliment miracle au concentré de plancton recueilli dans les mers et océans du monde.
1973, Soleil Vert de Richard Fleischer qui montre un monde caniculaire et dénué de ses ressources. Les chimères de votre livre, Laure Limongi, bien que fantaisiste, ne sont pas dénuées de mélancolie ni de capacité critique. Elle rappelle, en s'adressant à nous du futur, les crises écologiques, celles des hôpitaux, les pandémies, les catastrophes naturelles, le plastique, l'énergie fossile et le sexisme d'avant, c'est-à-dire celui d'aujourd'hui. Et elle espère, cette Violeta, qu'on n'utilise quand même plus d'eau potable ou pas d'eau potable pour la chasse d'eau. C'est un mythe.
Oui, elle veut pas y croire. C'est trop pour elle. Je pense que c'est le détail de trop.
Mais elle a de la tendresse pour nous.
Oui, Violette, elle est, comme elle le dit elle-même, spécialiste des langues décédées et de l'obso humain, c'est-à-dire de nous. Et donc, voilà, quand on a un objet d'étude, je pense qu'on se prend un petit peu d'amour pour lui. Donc, elle essaye quand même quelque chose un petit peu, cette bouteille d'eau dans l'histoire, pour essayer de changer les choses.
Elle se moque de nous assez gentiment, notamment par exemple avec la féminisation des noms. Elle rappelle qu'avant le XVIIe siècle, il y avait plein de noms féminins, Mirès, médecin-femme.
Tout à fait, ça reste à rappeler très souvent, j'ai l'impression.
Oui. Alors, les supermarchés ont été éradiqués.
Le capitalisme est mort.
Ah, c'est peut-être une bonne nouvelle.
Ouais.
Mais il y a quand même des catastrophes naturelles dans le monde des chimères, comme des tsunamis.
Oui, parce qu'une fois que l'emballement est parti, en fait, c'est à l'échelle d'une planète, c'est pas du tout comme une échelle de vie humaine ou animale.
Ce qui reste en revanche, ce qui est éternel, c'est le goût pour les histoires.
Voilà. Et c'est aussi la découverte pour cette société-là, donc dans cette histoire-là, que les animaux ont non seulement un langage, mais aussi des formes littéraires artistiques.
Ça, c'est magnifique, parce qu'en fait, vous imaginez une retranscription du langage de ces créatures qui se communiquent par vibration. Et il y a toute une partie très amusante comme ça sur les 7 traductions des deux langues avec des choses qu'on ne peut pas transmettre.
Oui, c'est vraiment une question sur la traduction. Après, dans ce monde-là, l'image telle qu'elle est omniprésente aujourd'hui n'existe plus. Mais voilà, ça tombe bien, on est à la radio. L'onde, en revanche, qui se transmet très bien dans l'eau, est le médium privilégié.
Il y a aussi quelque chose, donc les chimères ont été créées par l'homme, mais elles sont indociles. Indocile, c'était le nom d'un de vos essais aussi, c'est un mot qui revient beaucoup chez vous. Et moi, ça m'a fait penser aux lettres persanes de Montesquieu. Vous savez, cette façon de voir le monde avec une fausse candeur.
Oui, ça c'est effectivement c'était très utilisé pendant les Lumières, et c'est un petit peu, j'ai lu pas mal de livres de cette période, donc évidemment c'est inspiré de ça, ce qu'on appelait le bon sauvage à l'époque, le regard naïf, candide, qui vient interroger une société par des questions qui ont l'air un petit peu simples, mais qui en fait sont très très justes dans leur simplicité.
Alors, vous abordez aussi la fraternité et la sororité. Les cétacés chimères s'appellent des aimables. Mais vous rappelez tout de même que l'aimable est toujours pluriel. Seule, elle n'en est plus une. Mais les chimères sont tout de même séparées par sexe. Ce qui fait que l'homosexualité est devenue inhérente à la culture cétacée, n'a pas besoin d'être expliquée. Mais tout de même séparée. Donc, toutes les questions ne sont pas réglées.
Non, alors c'est un fait réel. Donc les cétacés, les grands mâles vivent dans les mâles vivent dans les grands fonds, dans les eaux froides, et les femelles restent donc en matriarcat, en groupe comme ça, matriarcaux, avec les petits. Il y a ces croisements assez peu fréquents et ça a été réellement observé. Donc oui, effectivement, il y a encore plein de questions qui restent chez les chimères.
Métamorphose d'Ovide par Benjamin Britten avec Sarah Francis au hautbois qui interprète le morceau Pan. Et je voulais qu'on entende un air classique sur les métamorphoses d'Ovide, Laure Limongi, parce que vous écrivez que pour imaginer la société que vous décrivez, il faut se dire que c'est comme si les métamorphoses d'Ovide s'incarnaient sans recours aux dieux. Et j'aimerais bien que vous nous lisiez un extrait de votre texte, si vous êtes d'accord.
Avec plaisir. Ce livre présente des ouvrages, du récit à la poésie, de ces nouvelles autrices et nouveaux auteurs qui ont fait de la littérature une ondulature, puisque nombre d'entre elles et eux ont opéré un entrelacement des codes de communications humains, basés sur la lettre, et de ceux de l'espèce aquatique avec laquelle ils et elles ont été hybridés, majoritairement fondés sur le son et la vibration, donc l'onde. Pour de raisons évidentes, cet ouvrage composé en 2123, vous parvenant via un canal mycélien permettant une transmission rétro-temporelle, j'ai effectué une retranscription en langage 100% obso-humain français, puisque je suis spécialiste en langue décédée. Vous l'appelleriez sans doute vieil humain français ou ancien humain français, comme on dit vieux français et ancien français. C'est la seule solution pour que vous puissiez le lire. J'ai tâché de transposer les particularités animales marines, ce qui est assez frustrant, mais je n'avais pas le choix. La traduction s'est avérée complexe, car on ne peut envisager ces langages simplement comme des langues étrangères. Ils sont exogènes, c'est-à-dire extérieurs, lointains, aussi bizarres pour un raisonnement humain qu'une écriture extraterrestre. Leur pensée est différente. Ils ne peuvent être d'une quelconque manière rapprochés du langage des animaux humains. En outre, dans le domaine aquatique, mais cela pourrait aussi concerner les oiseaux, Les individus sont des experts acoustiques. Ils maîtrisent la production, l'émission avec parfois plusieurs sons émis en même temps ou un double langage sonore et corporel, et la réception d'informations, le tout à très grande vitesse. Ils peuvent analyser de nombreuses données simultanées, davantage que vous. Je n'affirme pas que l'intercompréhension entre animaux humains et non-humains est impossible. Avec du temps et de l'attention, une communication hétérospécifique bidirectionnelle peut se mettre en place, sans pour autant imaginer une conversation fluide. Dans le cadre des pages que vous allez lire, en dehors d'un apprentissage antérieur et de contexte, j'ai dû adapter à ce que je pense être vos attentes et votre esthétique. Il est donc clair que ma propre subjectivité entre en jeu.
Ce sont les mots de Violetta qui s'adressent donc à nous, humains du présent, qui est consternée par des inventions humaines comme Paul le Poulpe. Je la cite, quel cirque, quelle humiliation pour un être aussi prodigieux. On sent que vous vous êtes amusé, Laure Limongi, en rédigeant ce livre. Et on sent aussi, malgré la grande fantaisie et l'inventivité, la colossale documentation. Et je pense par exemple à la versatile, aussi appelée pieuvre mime ou pieuvre mimétique. J'ai regardé ce que c'était du coup. Vous dites que ces pieuvres ont des caractères burlesques qui produisent des œuvres théâtrales saisissantes à l'humour teinté de critique sociale. Mais vous êtes renseignée sur elles pour écrire ça.
Oui, je me suis beaucoup amusée aussi. Oui, en fait, dès que je trouvais une espèce, il y en a beaucoup hein, aussi chez les crustacés, avec des caractéristiques étonnantes, j'essayais d'imaginer quelle pouvait être sa forme littéraire.
Il y a des dessins aussi, c'est vous qui les avez faits ?
Les dessins qui sont à la fin ?
Dans le livre, il y a plusieurs pages avec
en fait,
des dessins.
Alors, il y a des tampons que j'ai mis en fait, au début à la fin. Et il y a des schémas, effectivement, certains je les ai faits, tout à fait. Mais en tout cas, j'ai créé des tampons. C'était une méthodologie de travail, c'est-à-dire que pour essayer de me mettre dans la peau des cétacés et des crustacés, j'ai fait des dessins anatomiques. Voilà, parce que c'est quand même pas si facile d'écrire comme un cétacé ou un crustacé. Et donc après, ça a donné ces tampons qui sont sur les livres.
Alors, cette Violetta nous présente deux auteurs de la bibliothèque qu'elle constitue. Il y a Gina de Galen, chimère cétacée assez lyrique. Et puis, il y a Méni Pézalé, chimère crabe. Et vous imaginez leur biographie, c'est assez amusant. Et je me demandais si Méni Pézalé était la chimère qui vous ressemblait le plus, parce que elle est plus argotique que Gina, qui est très lyrique, et elle est droguée aux algues hallucinogènes. Elle a fait de la prison et il parle comme un loulou.
Ah ouais, il parle comme un loulou. Bah, en fait, je pense que je suis un petit peu dans les trois, à vrai dire.
Ah oui.
C'est une manière d'effracter les choses. Et je me suis amusée de cet état de effectivement, de contraste entre ce monde cétacé fort placide, plein, qui s'appelle les aimables, donc qui parle de sa propre tête en parlant d'enthousiasme, justement, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et effectivement, Ménip, qui quand même a un parcours plus cabossé et plus initiatique.
J'espère qu'il me pardonnera d'avoir mis un accent sur son E final. Dans le lexique cétacé, qui est à la fin de l'ouvrage, on apprend que les aériens bavards sont les perroquets, les longs nez facétieux, les éléphants, et les périlleux, évidemment, les êtres humains. Est-ce que vous voudriez bien nous lire la biographie que vous avez imaginée pour Ménip Zalé ?
Avec joie.
Et nous expliquer ensuite ce que c'est que la Luchaira.
Pareillement. Alors, Méni Pézalé est né en 2077 dans le bassin levantin, au large du Liban, entre les anciens champs gaziers d'Aphrodite et de Léviathan, non loin du mont Érastotène. Il est une chimère crabe de la troisième génération. Tour à tour trafiquant, taulard, mercenaire, manutentionnaire, danseur-lutteur, et sans doute bien d'autres choses, l'expression littéraire est venue à lui avec l'intensité brûlante d'une nécessité. Écrivain et performeur prolifique, Méni Pézalé écrit des romans et de la poésie. Nous présentons ici son premier roman à consonance autobiographique, La 49e Mue, Tre Cuori 2114, qui a bouleversé le champ des écritures chimères. On a notamment suivi Discipline pélagique, Tre Cuori 2117, à propos de sa pratique de transmission, et très récemment, Moratoire ou Morito, Tre Cuori 2123, un roman à la fois tragique et burlesque que la critique a dit post-post-bi-generation, dont la toile de fond est l'alternative entre hédonisme et restrictions éthiques. L'expression poétique de Méni Pézalé est polymorphe. Performance dansée, poésie olfactive, nous en reproduisons quelques pages traduites en opso humain en fin de volume, ou cahier de poèmes de Luchaira, une cinquantaine librement diffusée. Ayant pour principe de systématiquement refuser les honneurs qui lui sont proposés avec la mystérieuse phrase « Désolé, ça coûte trop cher », il anime divers ateliers d'écriture, de performance et de danse dans des prisons, des hôpitaux, des orphelinats, des asiles, des hospices, des refuges.
J'avais souligné, désolé, ça coûte trop cher pour les honneurs, c'était une très très belle idée. Qu'est-ce que la luchayera ?
Alors la luchayera, c'est... Ménip la découvre quand il arrive à Mar del Plata, qui est au sud de l'Argentine, où il découvre une pratique qu'il pense d'abord être de la lutte, mais il se rend compte rapidement que c'est plutôt une espèce de danse. Donc évidemment, j'ai pensé à la capoeira pour ça. Une espèce de danse, bon, où il y a quand même quelques codes de la lutte, mais totalement chorégraphiés. Et qui donne lieu aussi à une production poétique, puisque tout en échangeant à travers ces mouvements de danse qu'ils improvisent, hein, il y a cette notion d'improvisation également sur une scène ou sur un ring, chacun des participants à cette luchayera doit à la fin donner le poème qui a été émis finalement par ces gestes. Et donc dans ces grandes rencontres de luchayera, il y a tout le public comme ça, collectionne ces poèmes puisqu'ils sont après édités en petits fanzines, voilà, soutient l'un ou soutient l'autre, il y a plein de théories qui s'échafaudent, etc.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você amanhã de ser outro dia, ainda pago pra ver o jardim florescer qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você,
apesar de você, de Chico Buarque. C'est votre choix musical, Laure Limongi?
Oui, bah c'est une chanson que j'aime beaucoup, une samba que j'aime beaucoup. L'histoire est belle aussi, puisque c'est une chanson qui est sortie en 1970. Et alors, quand on l'entend, surtout si on ne parle pas forcément portugais, voilà, on a vraiment cette impression de quelque chose de très enlevé, très dansant, très vers la joie. Et quand on lit les paroles, on peut penser, comme le gouvernement, comme la dictature de l'époque, quand même cette femme à qui on parle est quand même bien, bien méchante. Donc quand le morceau est sorti, quand même pendant un an, la dictature de l'époque au Brésil n'a pas compris qu'en fait c'était elle, la méchante, le méchant en tout cas, partenaire amoureux de cette histoire qui est Narella. Et je trouve que les paroles sont absolument sublimes. J'avais noté quelques traductions. Cette question de l'énorme euphorie, où va se cacher la dictature pour tenter d'échapper à l'énorme euphorie qui existe parmi les gens qui sont écrasés par cette dictature, mais qui continuent à provoquer cette dictature par l'euphorie. Ou alors ces passages qui est magnifique où il écrit « Vous qui avez inventé la tristesse, eh bien, ayez l'élégance de la désinventer. » Enfin, moi, je traduis finesse par élégance. Et rien que pour ça, je trouve que j'ai envie d'écouter un pesar de você tous les jours.
Le personnage n'avait rien de banal. Rien. Jamais. Ce n'était pas un génie par intermittence. C'était un génie à l'état permanent. Je crois qu'il est même probablement mort de ça, son cerveau a explosé devant c'était un cerveau en allumage incessant.
I think we should go ahead, don't you?
I'm afraid we'll have to. Pour lui, c'est Laure Limongi. Vous avez écrit en 2006 « Fonction Elvis », un poème en prose et une évocation personnelle d'Elvis Presley. Vous êtes aussi intéressé à Glenn Gould. Et là, on entend un extrait de « Une vie, une œuvre » pour France Culture que vous avez réalisé, « An Idea of Glenn Gould ». Vous êtes aussi intéressé à lui dans « Soliste », 32 chapitres comme les 32 variations de Goldberg, de Bach. Et vous imaginez qu'il a survécu, mais peut-être sous un autre nom. Enfin, si c'est lui, puisque chez vous, on ne sait jamais. Si les gens sont eux-mêmes ou pas. Parlez-nous de votre rapport à la musique.
Alors moi, initialement, enfin si on peut dire les choses comme ça, j'ai évidemment appris à lire, mais en même temps que j'ai appris à lire, j'ai aussi appris la musique. Le piano notamment, puisque voilà, c'est à peu près au même âge qu'on commence ce genre de choses. Et les deux ont été vraiment un refuge, très clairement, puisque j'ai fait vraiment 12 ans de piano classique à assez haute dose et du chant un petit peu aussi, du chœur lyrique. Et voilà, le langage de la musique pour moi est très très important. Et donc au début de ma pratique d'écriture, je pense que j'ai vraiment essayé de lier, d'essayer de voir est-ce qu'on pourrait pas retranscrire la musique à l'écrit. Et voilà, d'où ces deux livres très très différents, puisque pour Elvis, c'est une écriture assez rock, très très paratactique comme ça, très très courte avec des phrases, avec des litanies. Et que dans le cas de Gould, clairement, il a fallu se mettre à une sorte d'écriture contrapuntique, en tout cas essayer de la retranscrire.
Contrapuntique, le contrepoint pour ceux qui n'ont pas de notion musicale.
Voilà, qu'il y a dans les variations, enfin en tout cas toute la question de la polyphonie, du retour des motifs, de tous ces liens-là, qui sont très clairement exprimés dans les variations Goldberg, et que donc j'essaie de retranscrire à l'écrit. Et clairement, moi, mon héros, quand j'étais petite, c'était évidemment Glenn Gould.
Bah évidemment, c'est pas si fréquent.
Non, je dis évidemment parce que je pense que ça devrait être le héros de tout le monde. Non, j'ai vraiment une passion pour Gould parce que c'est dans ma famille, on l'écoutait beaucoup. Je me souviens des vinyles vraiment de Gould qui passaient. Et moi, évidemment, quand j'étais enfant, adolescente, j'avoue que j'étais bien meilleure en musique romantique. Mais j'adorerais jouer Gould aussi. Enfin, jouer Gould, voilà, le lapsus, jouer Bach aussi bien que Gould. Mais voilà, j'étais plus Chopin.
Yo trabajo con la tierra. Con la naturaleza y hago esculturas en el paisaje, en el ambiente afuera, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con Cuba en el sentido de que a mí me ha atraído la naturaleza porque como no tenía tierra, como no tenía patria.
L'artiste américano-cubaine Ana Mendieta, en 73, qui parle de son attirance pour la nature car elle n'a pas de terre ni de patrie. C'est d'elle dont vous vouliez parler aux auditeurs dans cette émission, Laure Limongi.
Et je suis très émue, je n'avais jamais entendu sa voix. Parce que ses films sont tournés en 16 ou 8 mm et donc sont muets. Et il y a très peu d'archives, enfin, je n'en avais pas entendu, donc merci, parce que c'est très émouvant de l'entendre. Oui, Ana Mendieta, artiste à la fois du land art et du body art, qui me bouleverse beaucoup, qui m'intéresse beaucoup. J'avais la chance de voir la rétrospective au Jeu de Paume en 2019, donc c'est comme ça que j'ai pu avoir plus de... voilà. Et ce que j'aime chez elle, c'est à la fois effectivement les œuvres, les silhouettes, donc où elle essaie de mettre son corps dans la nature, de faire des traces avec son propre corps, mais... Ce qui est très précurseur déjà et très beau, je trouve, c'est le côté très fugace. C'est effectivement, une fois que c'est fait, il y a les traces qu'elle a gardées avec les photos, les vidéos, mais la nature reprend cet espace. Et puis c'est aussi, elle a été, Ana Mendieta, elle est cubaine. Et elle a été envoyée aux États-Unis à 12 ans, si je me souviens bien. Donc ils ont commencé à penser que Castro allait déplacer les enfants dans des camps communistes. Enfin bon, il y a toute cette histoire. Donc il y a des familles qui ont paniqué, qui ont envoyé leurs enfants aux États-Unis. Ça s'appelait l'opération Peter Pan. C'est juste absolument abominable. Et donc, pour Anna Mendieta, il y avait ce rapport à l'exil très puissant. Et donc, finalement, cette pratique proche de la nature, dialoguant avec la nature, c'était aussi pour elle une manière de se reconnecter à des rituels. Et chez elle, il y a beaucoup d'humour aussi. Il y a pas mal d'œuvres où elle écrase sa tête sur des vitres, par exemple, où elle se met des fausses moustaches. Enfin, il y a aussi un rapport assez drôle à la féminité et aussi interrogatif.
Moi, j'ai essayé, à la fois par du texte et par de la photographie, à ne jamais commenter quoi que ce soit, simplement à en montrer l'existence, à montrer l'existence des instants, de manière instantanée donc, et répéter à l'infini. Je veux dire, tous les instants sont bons, exactement comme quand on prend des photos. Ce qui est intéressant avec la photographie, c'est qu'on peut photographier à n'importe quel moment, n'importe quoi, tout le temps. C'est ça qui est fascinant avec la photographie.
On entend l'écrivain, éditeur, poète et photographe Denis Roche en 78 sur France Culture. Ça a été l'un de vos plus grands chocs de lectrice. Laure Limongi, vous l'avez rencontré pour votre mémoire de master. Vous avez écrit sur lui dans Indocile. Qu'est-ce que vous recommanderiez aux auditeurs pour le découvrir et qu'aimez-vous chez lui ?
Ah bah j'aime tout. Là, c'était la voix d'un tout jeune Denis Roche qu'on a entendu. C'était très émouvant aussi. Bah, Denis Roche, c'est quelqu'un qui a une œuvre poétique majeure, qui a été très expérimentale, qui a aussi œuvré à essayer d'interroger la littérature à l'aune de la photographie et la photographie à l'aune de la littérature. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses dans cette œuvre. Et c'est aussi un grand éditeur, donc le créateur de la collection Fiction et compagnie au Seuil, et donc un grand passeur de textes. Et j'aime aussi beaucoup... Ah, il y a évidemment plein de choses, c'est vraiment très cruel de me demander de choisir. Mais en tout cas, il y a un des livres aussi que j'aime beaucoup, qui est « Le boîtier de mélancolie », qui est une histoire de la photo en 100 images. Donc il y a les photos page de gauche, un grand livre, et les textes page de droite. Et voilà, et chaque texte est fort différent. Et je crois me souvenir que quand je l'ai rencontré, il était en train d'écrire ce livre, d'ailleurs. Voilà, et il y a le tout dernier dont le titre est en train de m'échapper, qui est paru posthume, évidemment au Seuil, qui est une sorte de journal. Ce qu'il ne voulait plus en fait publier à un moment, il voulait vraiment montrer que ses photos. Et Françoise Perrault, donc sa femme, a choisi de faire paraître ce livre, qui est un très très grand cadeau pour les lecteurs de Denis Roche et qui manifeste une tendresse, une humanité assez exceptionnelle, oui.
Il a dit dans l'extrait de Denis Roche le mot instantané, et j'ai promis aux auditeurs qu'on dirait ce dont il s'agit. Il nous reste quelques secondes, et les instantanés de Laure Limongi, ce sont des compositions avec des fenêtres internet ouvertes sur un écran, des extraits de films, des notes, des photos, des documents Word, des mails, des cartes d'identité, des playlists, La femme à la bûche de Twin Peaks de Lynch. Est-ce que ça ressemble à votre psyché ?
Ah, je crains que ça soit le cas, effectivement. C'est un petit peu comme ça, oui.
Et parce que je suis tombée sur une photo avec un sous-titre, j'ai amené un pénis à tout hasard. Vous vous souvenez de la source ?
Vous savez, les recherches mènent à tout. Non, là, j'avoue que non, mais non. C'est fort possible.
Bon, alors, terminons sur une recommandation du service des Panacées. Une recommandation d'un livre à lire pour tous les auditeurs.
Vaste sujet. Bon, disons qu'on ne va pas parler effectivement des troubles de chaque auditeur, mais disons peut-être À la ligne de Joseph Pontus, qui est un livre magnifique, qui parle de travail, qui parle de vie, qui parle de plein de choses, et qui parle des moments... sans doute certaines auront vu Patterson, le film de Jarmusch, qui parle justement de ce personnage poète qui écrit quelques secondes, quelques minutes sur le volant de son autobus. Voilà, c'est des moments volés, mais en même temps très très denses. Ce film montre bien la création poétique, et voilà, Joseph Pontus a vécu ça, mais en étant dans les abattoirs, à la crevette, dans des usines, etc.
Merci beaucoup, Laure Limongi.
Merci beaucoup, Eva Bester.
Votre livre, L'invention de la mer, paraît demain aux éditions du Tripode. Le lancement de votre livre aura lieu à la librairie Le Mont en l'air à Paris le 30 janvier. En avril, vous participerez au Printemps du Livre de Grenoble et au Festival du Livre de Paris. Votre service des Panacées sera en activité au Centre Wallonie-Bruxelles le 13 février et à d'autres dates indiquées sur leur site ainsi que sur panacées.com. J'en profite pour signaler que notre collaborateur Franck Olivard, qui déniche les archives pour l'émission, donnera à voir et entendre son adaptation pour la Nuit de la Lecture le samedi 25 janvier prochain du journal nationale tenue par quatre instituteurs d'une même famille picarde de 1768 à 1885. Performance à cinq voix intitulée Maître d'école. Cela aura lieu à la bibliothèque Vaugirard à Paris à 19h. L'entrée est gratuite, la réservation conseillée. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Irma Daniche et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Loïs Moreau.